Eh bien, bonjour, bienvenue. Ça marche là, oui ? Très bien. Pardon pour tous ces contretemps, tout ça est très compliqué, donc on devrait avoir avec nous Ananda Devi, mais je crois qu'elle est très souffrante. Donc, elle ne sera pas là. Et en plus, Dani va devoir nous quitter assez rapidement, puisque je crois que dans une demi-heure, vous filez, Dani.
Oui, tout à fait, mais ce qui permet d'avoir Eduardo Manet
en close-up,
c'est pas rien quand même.
Ah oui, absolument. Donc, on va parler de l'île, paradis ou prison. Dani Laferrière, vous êtes originaire du Nil, puisque vous êtes un écrivain japonais, donc vous êtes originaire d'un archipel.
Tout à fait.
Et Eduardo Manet, vous êtes cubain, donc la thématique de l'île est très présente dans vos livres, et votre dernier livre, Un Cubain à Paris, évoque justement ces allers-retours et cette hésitation. On ne sait pas très bien si vous êtes un écrivain cubain vivant en France ou un écrivain français originaire de Cuba. C'est un petit peu, c'est un petit peu le thème de vos souvenirs. Quant à vous, Dani, ce dernier livre, L'énigme du retour, qui vient d'obtenir le prix Médicis, est un livre précisément qui parle du retour au pays natal, en faisant référence évidemment au fameux cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, et des rapports entre le pays d'origine et puis le pays où l'on vit. Alors, l'île paradis ou prison, pour vous, Dani, Haïti ?
Oh, vous savez, Haïti a nourri beaucoup, beaucoup les fantasmes et est devenu sujet d'étude. Mais dans la réalité, les gens vivent très naturellement. Et ils ne se posent pas de questions de paradis ou prison. Je pense qu'ils se faufilent dans la vie, ils essaient de trouver un chemin d'échapper aux malheurs, que ce soit les malheurs politiques, que ce soit les malheurs que la vie apporte, charrie avec elle. Et il y a des moments où l'on se sent bien sous la dictature. Vous savez, la dictature peut bien espérer ce qu'elle veut, mais elle ne peut pas toucher tous les moments de la vie d'un individu, voire d'une société complètement. Il y a aussi des gens qui protègent des enfants. Je parle là de ma grand-mère et qui protège leur enfance. Et à tel point que j'ai voulu un jour, peut-être vers le soir de ma vie, j'ai écrit un livre qui s'appellera « Une enfance heureuse sous la dictature ». Et j'ai compris que cette enfance heureuse n'était pas donnée comme cela et que ça a été fait à cause de cette grand-mère qui a voulu me soustraire au courroux de Duvalier et de ses sbires. Et donc, et puis aussi d'autres moments où ce fut plus dramatique, où j'ai perdu un ami qui a été tué, où j'ai vu d'autres gens tués, et aussi la misère constante.
C'est ce qui a décidé d'ailleurs de votre départ, plus ou moins.
Donc, bien sûr, oui.
Mais en même temps, les souvenirs d'enfance sont toujours empreints de nostalgie. Donc, quand on parle de son enfance, quelles que soient, j'allais dire, les circonstances sous lesquelles on les a vécues, il y a toujours une sorte de...
Oh, pas forcément. En littérature, il y a même un snobisme d'avoir eu une enfance malheureuse. Oui, c'est bien vu d'avoir souffert enfant, d'avoir eu une mère vipère et folcoche.
Oui, mais ça date. Hein. Là, vous faites référence à l'histoire ancienne, quand même.
Oui, mais, folcoche. Oui, mais ça introduit toute une littérature. Qui oserait dire mon enfance fut heureuse, hein, c'est fini, là. C'est-à-dire, quand on a dit ça, on a terminé. Non, je pense que la mienne fut heureuse. Gérard, tu ne l'enlèveras pas.
D'accord. Et la vôtre, Eduardo ?
Je voulais premièrement dire que, vous savez, Cuba, vous connaissez tous Cuba, au moment où vous avez vu les dessins, c'est un caïman ou un lézard vert pour moi, mais la tête du caïman ou du lézard, il y a un nez, un petit nez, et ça s'appelle la punta de maizi, la pointe de maizi. Alors, paraît-il que quand il fait très beau, on peut voir Haïti à partir de la punta de Maizi. Premier lien avec Denis. Deuxième, j'avais ma mère qui était andalouse, mais elle avait, j'avais une nourrice qui était haïtienne. Une très très belle et jeune nourrice qui était haïtienne, c'est elle qui me donnait le sein. Donc j'ai été nourri par le sein, le lait d'une haïtienne. Encore une fois, une de mes passions la plus forte, c'était aussi avec une haïtienne. Voilà pourquoi nous sommes tellement proches, tous les deux, moi, d'Haïti et de l'île de Cuba. Mais bon, revenons au thème. Toutes les îles sont en fait un petit peu... prison dans le fait que pour quitter l'île à la nage, vous risquez beaucoup de choses. Oui. Ça, qui se passe avec les Cubains qui quittent parfois sur des radeaux et qui meurent beaucoup. Mais moi, j'ai vu par exemple aussi, j'étais un jour à Miami avec des amis, on prenait le soleil, et puis tout d'un coup, je voyais un bateau très beau. Un bateau ancien qui venait comme ça, je dis, on tourne un film, parce qu'on le sait très bien, oui. On tourne beaucoup. Et il y a des amis qui étaient avec eux, on me dit, mais non, c'est des Haïtiens qui arrivent. Et effectivement, il y a des Haïtiens qui arrivaient dans un petit bateau qui pouvait tomber d'un moment à l'autre, ce qui a provoqué une grande émotion. Plus étrange encore avec ces situations, c'est quand un bateau est arrivé d'Haïti dans des conditions effroyables, mais ils sont arrivés dans une plage privée dont il y avait une grande fête. Il y avait un millionnaire, je ne sais pas lequel, qui faisait une grande fête. Et tout d'un coup, ces gens qui étaient là, qui dansaient, qui bouffaient, etc., ont vu arriver les Haïtiens à l'honneur. Sachant pas quoi faire, la dame de la maison a porté des bocaditos, des toasts aux anciens qui arrivaient. Bon, mais voilà la chose. Mais il y a quelque chose que pour moi encore plus important, on s'échappe toujours des îles. Et on s'échappe d'Haïti, on s'échappe aussi de Cuba. Et qu'en réalité, il y a un Cubain de l'extérieur et un Cubain de l'intérieur, comme on le dit, ceux qui sont là-bas et ceux qui sont à l'extérieur, les Haïtiens aussi. Et ce que je remarque, c'est ces deux populations, frères et sœurs ou sœurs, à l'extérieur, c'est magnifique. La communauté haïtienne, Dani, tu peux me dire, c'est une des plus fortes, une des meilleures, une des plus avancées aux États-Unis et à Miami, et les Cubains aussi.
Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites des plus avancés? Ça veut dire...
Parce qu'il y a des images grotesques, parce qu'il y a des clichés. Les Haïtiens sont pauvres, miséreux, ne savent pas écrire, ne savent pas dire. Les Cubains, grâce à la Révolution, ils savent lire et écrire, ils aiment la salsa, ils dansent tout le temps. Et ça, c'est les clichés que nous ne pouvons pas éviter. Mais la vérité, c'est que quand ces Cubains quittent le pays, quand ces Haïtiens quittent ce pays à l'extérieur, ils montrent toutes les possibilités, toute l'intelligence, toute la force de travail qui ont ces deux peuples, le peuple cubain et le peuple haïtien. Donc, tout est relatif, évidemment, comme l'avait dit les grands mages et scientifiques Einstein, tout est relatif, prison, île, prison, mais au fond, comme dit Denis, moi aussi, de mon côté, j'ai eu une enfance heureuse avec ma maman blanche et ma maman noire. Et c'est, je pense, ça qui nous fait, nous donne la possibilité d'écrire et l'impulsion et l'amour pour l'écriture.
Mais alors, vous dites les îles, on a envie de les quitter. En même temps, vous grandissez, vous naissez à Cuba, vous naissez dans un milieu très cosmopolite qui n'est pas typiquement cubain, si j'ose dire. Donc vous avez déjà une espèce d'ouverture sur le monde par votre histoire familiale.
Oui, mon cas est très particulier parce que ma maman était andalouse séfarade, enfin juive d'Andalousie. Mon papa était de Madrid, castillan pur et dur. Mon parent était basque, communiste, nationaliste basque, antifranquiste, et très catholique, tout ensemble. Là, les Basques sont capables de faire tout cela. Et puis, il y avait, comme mon père était journaliste, directeur de journal, politicien, ministre d'éducation à un moment donné, et tout autour de lui, il y avait la plupart des Espagnols, de toutes les régions de l'Espagne, que ce soit les Galiciens, les Aragonais, etc., etc. Et tous ces Espagnols adoraient Paris, la France et la culture détestaient les Français parce que c'est un peuple extrêmement hautain, qui se croient les centres du monde. Alors là, c'est encore une fois cette singularité, adorer Paris, la France et la culture, détester les Français. Mais je suis né d'un côté avec ma maman haïtienne qui me chantait et me parlait en créole, mais me chantait aussi en français. Ma mère qui ne parlait pas le français, ne savait pas lire, mais avait toutes les revues des autres cultures parce qu'elle adorait. Mon papa qui parlait le français avec la plupart de ses camarades espagnols. Donc depuis tout petit, l'image, la présence de la France a été à moi très profonde. En plus, adolescent, j'étais, comme tous les adolescents qui se respectaient avant de la Révolution, j'étais anti-impérialiste yankee, donc bilingue, pouvant aller aux États-Unis, et même j'avais obtenu une bourse d'études à Yale, que j'ai laissé tomber pour venir avec très peu d'argent suivre mes études, comme je raconte, en Cuba, à Paris, et j'ai eu la chance d'arriver dans cette décennie des années 50, où la culture française était là.
Avec les gens du théâtre, les gens de...
Véritablement, oui, absolument, oui. La plus grande culture du monde, avec tous ces écrivains fabuleux qui étaient Claudel, Monterlam, Colette, il y avait Beauvoir, Sartre, Camus, les grands Camus, et puis la nouvelle vague, avec j'ai eu la chance de rencontrer Nathalie Sarotte à cette époque, le hasard a voulu que je rencontre, j'étais journaliste et mime, membre de la compagnie des mimes de Jacques Guécoq, et en tant qu'artiste et en tant que journaliste, j'ai rencontré tout le monde. Et j'ai la preuve, j'ai des photos avec Yves Montand, avec Gérard Philippe.
Vous avez connu tout le monde, absolument, c'est très étonnant quand on livre.
J'ai demandé à mon éditeur de publier ces photos pour qu'on voit que c'est vrai, je ne mens pas. Et on me voit avec Yves Montand qui jouait à ce moment d'une grande élégance, il était dans une robe blanche, j'étais arrivé en retard parce que mon photographe était arrivé en retard et tout de même il me reçoit avec une cordialité. Maintenant, je vous assure, mes camarades journalistes de cinéma surtout, quand ils veulent rencontrer un jeune comédien qui a fait deux films, qui a la tête grosse, il paraît que ils me disent que c'est plus facile d'avoir Brad Pitt et Evangeline Jolie qu'un tel, un tel ou un tel. Et à cette époque, un petit jeune inconnu d'un pays qu'on ne connaissait pas du tout, qui va avant la Révolution, personne ne savait où il était, Et dans un journal qu'il avait comparé, on me recevait avec un respect, une cordialité. J'ai dit, qu'est-ce que la France a changé depuis cette époque-là?
Oui, ça, effectivement, on ne va pas faire le bilan. Oui, mais vous avez des circonstances absolument exceptionnelles, Édouard Domanet, parce que quand vous parlez de ce travail de journaliste, vous êtes journaliste à quel âge? Vous êtes journaliste très tôt, votre père était journaliste. Vous vous retrouvez à faire des interviews avec les plus grandes personnalités de Cuba. Déjà, vous avez quel âge?
C'est un cas typique, je l'assume, de népotisme. Il y en a d'autres un peu partout. Mais bon, le mien était clair et net. J'avais 15 ans, mais j'étais très sérieux. Très sérieux.
Ah ben ça, on n'en doute pas, mais
très
quand même.
Très sérieux. Donc, j'ai demandé à voir, par exemple, Miss Barbara Stanwyck, qui était la plus grande actrice de Hollywood en ce moment, qui passait par Cuba.
À 15 ans.
Oui, oui, elle me recevait. Recevait un journaliste cubain, donc c'était très professionnel. Continuait à être très professionnel, les Américains. Hein, on peut arriver. Et Miss Barbara Stanwyck me voit arriver. J'étais amoureux fou d'elle, pour commencer. J'ai détesté son mari, Robert Taylor, qui en plus était un traître, qui avait dénoncé des gens au moment du mercantilisme. Et donc, j'aurais voulu séduire. Alors, je faisais tout pour la séduire, mais j'ai rendu compte que j'avais 15 ans. Donc, si elle ne m'a pas fini pour me prendre sur ses genoux, je ne sais pas. Mais Igor Stravinsky m'a reçu, et Al Kreiber. C'est-à-dire que plus, je crois profondément, sincèrement, plus un artiste est grand, plus un artiste est sûr de son œuvre, plus il est simple et plus il est humain. Ouais. Et moins on est, et plus la tête monte, et plus idiot on se comporte comme beaucoup de gens que je ne nommerai pas parce que je ne suis pas méchant. Nous ne sommes pas dans un talk show de la télé dans lequel on s'insulte. Ouais. Je n'ai fait jamais ça.
Ok. À quel moment, Dany, avez-vous eu la nécessité ou l'envie de quitter Haïti? C'était justement quand il y a eu ces problèmes avec votre ami
La nécessité, oui, l'envie, non. Non, ce n'est pas parce que je ne rêvais pas de pays étranger. C'est qu'à un moment donné, il y a un espace très bref où, à la sortie de l'adolescence, on rêve beaucoup. Et brusquement, j'étais pris à des choses très importantes et très quotidiennes. Je travaillais comme journaliste à la radio, et à la radio de Jean-Dominique, et j'étais aussi dans un hebdomadaire politique qui était contre Duvalier un peu, qui s'appelait Le Petit Samedi Soir. Donc j'étais occupé, j'étais très occupé, j'avais une bande de copains avec moi, j'allais le soir aussi au conservatoire voir des pièces de théâtre qui étaient jouées par des amis, et d'ailleurs, il y avait le soir même où la veille de mon départ, il y avait Antigone en créole qui a été fait par Félix Morisseau Leroy. Et donc il y avait une effervescence énorme, et j'avais un copain d'ailleurs que j'allais voir qui avait une émission de jazz qui durait toute la nuit, qui était toujours, qui chaque soir prenait un musicien. Le soir de mon départ, c'était Miles Davis, et qui faisait passer tout, et puis c'était des jeunes gens de 18 ans, hein. Et puis en même temps, sous l'œil de la dictature, vraiment, qui était aux aguets, et donc j'étais dans une situation extrêmement intéressante, où la culture était utilisée comme arme contre la dictature, parce que nous, on avait vite compris qu'il fallait pas se mettre à militer par les armes, parce qu'on était visible, on allait se faire tuer, et qu'il fallait surtout introduire les choses nouvelles à la société. Mon ami Ezekiel Abela introduisait, Miles Davis, il trouvait pour lui que c'était important de nous sortir un peu de cette meringue, de la musique qu'on aimait bien, mais on voudrait bien, et Jean-Dominique et introduisait beaucoup, il aimait Buñuel, il aimait Fellini, il aimait, il me souviens, le cinéaste suédois Bergman, oui. beaucoup, et je me souviens, et c'était important, parce que je me souviens, il nous avait beaucoup bassiné à propos de Visconti, et quand j'ai été voir Moi à Venise, j'ai failli mourir d'ennui, mais je l'ai vu pour lui, et c'est resté dans ma tête, et plus tard, dans ma tête, sans que je l'ai revu ce film, j'ai trouvé que c'était un chef-d'œuvre. Vous voyez comment on peut, dans votre tête, on peut même refaire cela. Donc c'était très important, cette bataille culturelle, cette bataille pour la culture, parce que c'est ce que fait précisément les conditions d'enfermement. On finit par vous faire croire que si vous êtes dans tel groupe donné, dans telle classe sociale donnée, dans tel quartier donné, vous ne pouvez pas avoir accès à une certaine forme de culture. Et en plus, on vous dit, c'est pas bien d'y avoir accès. C'est trahir votre classe, votre groupe, votre société. Et nous, on disait non, on lisait ce qu'on trouvait. Donc j'étais occupé. Je ne pensais plus à partir. C'est arrivé brusquement avec la mort de cet ami journaliste. Là, on a compris que c'était pas une plaisanterie. Et parce qu'on n'avait pas du tout l'histoire de la dictature. Nos pères qui étaient en prison, ou qui étaient tués, ou qui étaient exilés. Et finalement, il y a eu tellement de silence à propos. Il y a eu un temps, un espace assez mort où a régné ce qu'on appelle le silence du cimetière, l'information n'étant pas relayée. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on a fait des articles contre Duvalier, parce qu'on pensait que c'était la démocratie, qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. On avait plus peur. Et quand cette mort est arrivée, brutalement, et la dictature a fait une apparition physique, concrète, et dans notre paysage. Et puis voilà, moi j'étais parti. J'ai dû partir.
Je vous présentais tout à l'heure Dany Laferrière comme un écrivain japonais, en faisant référence effectivement à votre précédent livre, qui traite quand même d'une question très, très importante, enfin très importante, je ne sais pas, en tout cas dont on débat beaucoup en France, qui est le problème de l'identité, en quelque sorte. Dans ce livre, dans ce plus récent livre, L'énigme du retour, vous vous posez tout de même la question de vos propres rapports avec votre pays natal.
Oui, oui, bien sûr.
Plus encore que dans tous les autres livres. Et vous dites, alors je pense que tout à l'heure vous l'avez évoqué un petit peu dans le débat avec Pascal, mais vous évoquiez le fait que sans l'exil, vous n'auriez peut-être pas... Enfin, vous posez la question à un moment en disant que sans l'exil, vous n'auriez peut-être pas écrit ce que vous avez écrit et peut-être même pas écrit du tout.
Oui, mais vous savez, il ne faut pas faire confiance à ces vieux singes qu'on appelle les écrivains. Surtout quand ils écrivent, vous savez, le récit exige des ruses de narration. On ne peut pas avancer le récit si on n'est qu'une seule personne. On doit aussi, il y a plusieurs faux amis qui doivent poser les questions. Donc, c'est toujours dangereux de prendre une phrase dans un livre et de l'appliquer. Ça fait comme si c'était une ligne droite qui s'écrivait, alors qu'on entend aussi le contraire. Et même ce dont parlait tout à l'heure, c'est pas ce livre pose la question du lieu. Il ne pose pas la question de l'identité. En Haïti, on n'a pas de problème d'identité. On a un problème de dictature et de faim. Et c'est ça le problème. Quand on a un problème de dictature, on n'a plus de problème d'identité.
Il y a un problème de faim.
Oui, ouais. Mais quand on a un problème de dictature, il n'y a plus de problème d'identité, puisqu'on a un ennemi sur le sol. On a un problème d'identité quand on n'a pas de dictature et que l'ennemi devient quelqu'un qui a occupé notre passé. Là, on a le loisir de penser que la France nous avait colonisés il y a 150 ans. Le dictateur a remplacé le colon. Donc on a un problème local, national, et c'est pour ça qu'on va avoir une littérature nationale qui va être basée sur la dictature. Avant le dictateur, on avait une littérature qui trouvait pas son ennemi. Il y a pas de littérature sans un véritable ennemi. On a vu tout ce que Castro a apporté dans la littérature. Il faut un véritable ennemi. Et Duvalier a apporté à quelque chose de très neuf dans la chose. Il a apporté non seulement un ennemi concret, sérieux, important, il a apporté l'exil. Et qui a fait de nous des gens universels, un problème universel, nous a sortis de l'île, c'est-à-dire de cet univers de cueillette qui donnait l'impression aux étrangers qu'on était après de la mer à cueillir des noix de coco et à les manger. Et depuis l'arrivée de Duvalier, personne ne pense à Haïti en disant, vous savez, ces îles-là, les Caraïbes, où l'on va faire la farniente. On pense à Haïti à une grave question politique. On dit que c'est sérieux. C'est sérieux. Donc, il a apporté cela et nous, les écrivains, on était obligés, nous aussi, de sortir de ce qu'on appelle de ces poèmes où il y a un palmier. Et comme disait Edzer Villers, il ne suffit pas de planter un palmier au bout d'une méchante rime pour faire de la poésie. Donc, ça, on est sorti, on n'a plus de palmier, c'est Duvalier qui a remplacé le palmier au bout de là. Et la rime est devenue méchante vraiment. Donc on a tout cela. La question d'identité n'existe pas en Haïti. On a cela. Et ensuite, on a le voyage, et le voyage qui permet un aller et retour. On a dans la littérature haïtienne, Édouard Domanet vient de le dire, des gens à l'extérieur, des gens à l'intérieur, des gens qui écrivent dehors. Vous ne pouvez pas imaginer ce que les livres d'Édouard Domanet doivent avoir comme impact pour des jeunes Cubains qui ont 18, 19 ans, qui veulent lire et qui voient leur littérature. Brusquement, on a des écrivains ailleurs qui raconte d'autres histoires, un Cubain à Paris. Tu comprends, le type, il a vécu chez nous, il a là, et ça ouvre le large. Donc c'est très important, et donc les problèmes d'aller-retour, l'énigme du retour, ce n'est pas un problème d'identité, ce n'est pas un problème de retour à des origines, c'est un problème qui est le même que celui de l'Iliade et l'Odyssée, c'est-à-dire les vrais mythes de la littérature, c'est le voyage et le retour. Il ne faut pas le voir en thème du dictateur comme point focal de cette histoire. Il faut le voir dans la vieille tradition du voyage et du retour. Enfin, c'est ce que j'ai voulu faire.
Qu'est-ce que Castro a apporté à la littérature cubaine, Édouard Domanet, dans le droit fil de ce que vient de dire Dany?
Mais j'ai un camarade qui est un très, très grand architecte, Porro. Et c'est lui qui a fait les belles écoles d'art à Cuba. Tous les touristes qui vont à Cuba, parfois, ils arrivent à un point de touristique, les écoles d'art cubaines, d'ailleurs, qui fonctionnent très bien, etc. Et lui, il disait que nous devions nous appeler la génération Merci Fidel. Parce que grâce à ça, nous avons quitté Cuba. Il serait resté là-bas, peut-être moi aussi, et on aurait perdu une partie de nous-mêmes. Donc, d'un côté, merci Fidel, et d'un autre côté, c'est vrai que quand il y a une tyrannie, une dictature, un gouvernement fort pendant très longtemps, ce qui est le cas à Cuba, c'est vrai que ça réveille l'opposition des jeunes, l'imagination des jeunes. Quand il y avait, par exemple, Franco en Espagne, il y avait des écrivains, il y avait le formidable cinéaste Carlos Saura, son frère, qui était un grand peintre, à la mort de Franco, l'imagination et l'émotion de Carlos Saura a disparu. Ses autres films, c'est de danse, etc. Et c'est là est venue la nouvelle génération.
Il y a une autre génération.
Une autre génération, la génération célèbre avec Almodóvar, etc. Ouais. Mais c'est vrai que quand il y a... Et par exemple, il y a beaucoup d'écrivains cubains à l'étranger, bien entendu, d'autres exilés, d'autres qui commencent à écrire... en anglais, etc., mais à Cuba aussi. Et énormément à ce moment de poètes, des écrivains, des romancières, c'est-à-dire que voilà, c'est une manière de se manifester et d'attendre qu'ils puissent un jour s'exprimer autrement et dire autre chose que ce qu'ils disent en ce moment, ceux qui sont là-bas. Parce qu'il fait suggérer des choses, oui. Mais il ne peut pas faire une critique. Presque tous sont mes amis, ils essaient. J'ai défendu rudement au cours d'un prix international à Padura, qui était à Cuba, et que nous nous sommes rencontrés à la Guadeloupe, comme deux frères. Il était à Cuba, là, après Haï, le pornographe Gutiérrez, qui est venu formidable. À Biarritz, je luttais pour qu'on puisse, j'étais président d'un prix, peu importe, à une fille formidable qui avait écrit un roman. À mon avis fabuleux, qui s'appelait « 100 bouteilles contre le mur ». Et cette jeune fille est formidable, bellissime, 33 ans, elle a Parkinson. Elle est toujours à Cuba. Donc, c'est relatif. Ça réveille pendant l'occupation, ça réveillait déjà tout ce qui allait venir après, quand il a eu. Donc, d'un côté, c'est terrible d'avoir une dictature ou une tyrannie. D'un autre côté, parfois, ça aide à l'imagination, ça aide à trouver les moyens de détourner la censure. Voilà, mais ceci dit, je dirais, comme il disait tout à l'heure mon camarade et frère, pas de dictateur noir, mais pas de dictateur blanc non plus. Pas de dictateur du tout. C'est tout ce que nous souhaitons pour le monde.
Oui, c'est parce que c'est quand même un éloge paradoxal de Duvalier et de Castro. J'aimerais bien que vous évoquiez...
C'est pas un éloge. C'est pas un éloge. C'est une situation et qui, au contraire, c'est tout simplement une façon de s'opposer à eux que le fait que ça réveille notre imagination. Et c'est pour s'opposer, c'est pas un éloge.
Mais Dany, j'aimerais bien que vous évoquiez la figure d'Aimé Césaire, parce que l'énigme, même dans le titre, le livre « L'énigme du retour » fait quand même... pratiquement oui. Référence oui, à, au cahier sûr. De retour au pays natal. Il en est beaucoup question dans le livre et c'est véritablement un livre qui est nourri par la lecture et par les références à Aimé Césaire.
Tout à fait. Mais il y a beaucoup de précisions à faire dans cette histoire. D'abord, je suis un lecteur, beaucoup plus qu'un écrivain. Et dans tous mes livres, vous me lisez depuis un moment. Dans tous mes livres, il y a des écrivains. Il y a toujours des livres, et même dans certains livres, il y a des écrivains qui sont comme des poissons pilotes que je suis. Cette grenade dans la main du jeune nègre, il y avait Whitman, et il y a toujours Borges, il y avait aussi, dans le dernier, je suis un écrivain japonais, c'était Basho. Et j'aime bien cette idée, ça me rassure, les écrivains et les livres. J'aime bien les mettre dans les livres. Et cette fois-ci, et c'est Césaire. Et ensuite, Césaire n'est pas un père dans ce livre, il est plutôt un fils. Et on n'a pas idée, dès que les gens meurent, ils entrent dans l'éternité et ils deviennent plus vieux que tous les vivants. Mais un écrivain, mais il faut les regarder autrement dans leur temps. Et le Césaire que je cite dans ce livre, c'est l'auteur du cahier d'un retour au pays natal, c'est un jeune homme de 25 ans. J'ai 56 ans. Et d'ailleurs, je l'ai dit dès le début, quand il parle de la mort, j'ai dit que peu. Et il dit, la blanche, un vers magnifique. Et j'ai dit, que peut savoir un jeune homme de 25 ans à propos de la mort et de l'exil? En effet, pas beaucoup de choses. Et bon, comme poète, il peut sentir les choses, mais il ne le sait pas, parce que l'exil est lié au temps. Il faut avoir passé beaucoup de temps. On ne peut pas sauter le temps, on ne peut pas faire abstraction, ni on ne peut pas éviter ce temps-là. Donc je parle d'un jeune homme de 25 ans, je parle qui a écrit ce poème, et je voulais aussi relire le poème de Césaire, parce que je trouvais que c'était, et ça ne pouvait être que mal lu par un Martiniquais ou un Guadeloupéen. Et quand je dis mal lu, je ne veux pas parler de l'intelligence des gens, je disais que c'était dans le même contexte. Césaire exprimait ce qu'il fallait exprimer de la manière la plus forte. la plus poétique, la plus puissante possible. Et on ne pouvait, ils ne pouvaient voir, eux, en Césaire, qu'un père. Donc c'était impossible de le lire. Moi, je l'ai vu, j'ai vu Césaire comme un fils parce que, précisément, je suis haïtien. C'est-à-dire, Césaire l'a dit lui-même. Il a dit « la négritude s'est mise debout pour la première fois avec la révolution haïtienne ». Césaire et ses copains, Senghor ou Damas, viennent de Jean Price-Mars. Jean Price-Mars qui déjà en 1928 a écrit « Ainsi parle à l'oncle », si l'on peut dire. Et déjà en 1836, l'école de 1836, qui était avec les frères No, les frères Ardouin, et parlait de cette créolité, de cette négritude, de cet indigénisme, et que plus tard, qui va être repris et au 19e siècle, qui va être repris encore à nouveau et par Price-Mars. Et vous savez, quand par exemple Gobineau a écrit « De l'inégalité des races humaines », les deux seules réponses étaient venues d'Haïti. Anténor Firmé a écrit un livre de près de 400 pages de l'égalité des races humaines et l'autre, Louis-Joseph Janvier, a écrit un autre livre, à peu près le même titre, je crois, à propos de l'égalité des races humaines. Et aussi, il y a un autre type qui a écrit un livre qui s'appelle la dette, ce que, disons, les autres pays noirs ou les autres noirs doivent à la République d'Haïti. Je veux dire, il y avait déjà une longue tradition qui fait que quand Césaire a commencé à parler de cette négritude avec Senghor et Damas, et Haïti était déjà loin derrière, ne parlait plus à l'Europe. Haïti ne parlait plus à l'Europe, ne réglait plus, parce que le cahier de retour au pays natal, comme la créolité, c'est quelqu'un qui s'adresse à une métropole pour lui dire son fait, pour lui dire que vous m'avez mal compris, pour lui dire que nous valons mieux que ça. C'est une défense et illustration, c'est une parole à l'autre. Haïti avait déjà retrouvé une parole intime. Donc c'est très important. Pour moi, Césaire est un fils dans ce livre. Il y a un Césaire père qui aurait pu être mon père, c'est celui du moi laminaire. C'est beaucoup plus tard, c'est le laminaire, c'est ce personnage dense, c'est cet homme au visage souriant, mais qui cache une colère si profonde que j'ai toujours eu l'impression qu'il était désincarné, qu'il était, on dirait, un arbre sec mort. Et tellement sa colère est forte, une colère si formidable qu'il la tient en laisse comme un chien enragé. Ce Césaire-là, oui, je dirais même un frère, mais il pourrait être un père. Donc c'est très important et cette lecture n'est possible, je le redis une dernière fois, que parce que je viens de la culture haïtienne qui déjà ne parlait plus à l'Europe. Alors que Césaire parle dans le cahier de retour au pays natal à l'Europe. Et le retour que je fais moi, c'est le retour à la dictature. C'est déjà un autre débat. Je ne parle plus aux colons blancs, je parle aux colons noirs.
Denis, je ne sais pas. Oui, c'est ça, je veux pas vous chasser. C'est pas,
mais je vous laisse avec mon frère, Édouard Domanet, que je rencontre chaque 2 ans. Et, donc à bientôt, Édouard.
Bon. C'est ça. Eh bien, salut Denis, à bientôt. Voilà, on a un petit peu un emploi du temps un peu bousculé cet après-midi, mais voilà, Dani doit nous quitter. Alors, Eduardo, dans ces mémoires, en quelque sorte, dans ce parcours autobiographique, un Cubain à Paris, il y a quand même beaucoup de, il y a un aller-retour, il y a beaucoup d'aller-retour entre vous vivez, vous revenez à Cuba un certain temps, vous y occupez des fonctions importantes, vous travaillez pour le cinéma en particulier. Est-ce que ça crée justement un lien particulier? Le fait, c'est pas un exil classique, si j'ose dire, un exil qui est une sorte de départ définitif. Je ne dirais pas qu'il y a une sorte de valse-hésitation, mais en même temps, il y a beaucoup d'allers-retours entre, non pas entre la France, mais entre l'Europe et Cuba.
Non, c'est-à-dire que la première fois que j'ai quitté Cuba, c'était pour faire des études pendant 3 ans, en principe, des études de littérature et de théâtre, premièrement à Paris. J'ai dévié un petit peu pour passer en Italie, où j'étais tombé amoureux de ce pays, de cette langue italienne. Et finalement, il y a eu le coup d'État de Batiste en 1952. Et donc, j'ai cru, comme beaucoup de personnes, que la dictature de Batiste allait durer une quarantaine d'années que parce qu'il avait toute l'Amérique latine était occupée par des dictateurs partout. Il y avait Duvalier, il y avait Perón, sauf le Mexique, toute l'Amérique latine, et en Espagne il y avait Franco. Donc pour ne plus retourner dans ces pays, c'est là où j'ai choisi véritablement un exil, et non seulement un exil, j'ai voulu devenir français, obtenir un jour la nationalité. Je commençais à écrire en français, après je suis passé à l'italienne, après je suis retourné en français, et je voulais vraiment, je croyais que toute ma vie allait être destinée à vivre en France. Entre-temps, il y a eu les triomphes surprenant et rapide de la Révolution. Et comme j'avais connu les frères Castro avant la Révolution, parce que j'étais à l'école premièrement avec Raoul.
Oui, vous avez bien connu finalement Raoul plus encore
que
Fidel. Oui,
oui, oui, oui, parce qu'au fond, vous savez, il est très curieux. Je viens de savoir par une grande biographie d'un Anglais qui a fait la meilleure biographie sur Fidel Castro. C'est la première personne qui raconte qu'en réalité, Fidel Castro était né en 1927, mais qu'à 12 ans, il était en avance. Il voulait entrer au lycée, et donc le papa lui a mis une année de plus. Donc, c'est pour cela qu'actuellement, on dit que...
Sa date de naissance est fausse.
Voilà, on dit que Castro est né en 1926, et non, il est né en 1927. La même chose, exactement, était arrivée à mon papa. C'était une époque où les pères n'inscrivaient pas les enfants, parce que c'était Cuba en plus, c'était très, très particulier. Donc, mon papa aussi ne m'avait pas inscrit, et comme Fidel aussi, j'étais un petit peu à l'avance, à 12 ans, je voulais faire les examens et pas perdre une année de plus. Il a envoyé son chauffeur qui a tout changé. Et au lieu de me mettre 3 mois de plus, il a mis 3 ans. Donc, voilà, carrément. C'est-à-dire que pour cela, quand j'étais journaliste, sur les papiers, j'avais 18.
Ah oui, c'est ça,
voilà.
En fait, vous aviez 15 ans.
J'avais 15
oui.
ans, donc oui. J'avais la tête d'un garçon de 15 ans, en plus.
Oui. Mais enfin, un garçon, un enfant prodige, un petit peu quand même, très en avance.
Un petit peu comme ça, c'était un peu plus vieux, mais un petit peu...
Oui.
Alors, donc, voilà. Non, pour dire qu'à ce moment, je croyais que j'allais être en exil. Oui. Je suis retourné en 60, après j'ai quitté en 68, mais avec une permission, je n'ai pas quitté pour m'exiler non plus. Je pensais y revenir à Cuba, après j'avais une pièce de théâtre qui, grâce au ciel, a marché très bien pendant 2 ans et demi, un gros succès à Paris, 21 traductions. Mais entre-temps, il y a eu un poète en prison, j'ai signé, et c'est l'ambassade cubaine qui a décidé que j'étais exilé. Mais moi, je ne me considère pas comme exilé, voilà.
Ah oui. Alors, c'est très étonnant, quand on lit ce livre en particulier, vous êtes considéré comme un des grands ténors de la francophonie, Eduardo Manet. On se dit, voilà, un écrivain cubain qui écrit en français, c'est formidable. En fait, quand on lit ce livre, on est très surpris de voir que vous avez beaucoup hésité. Vous êtes très attaché à la culture française, à la langue française. En même temps, à un moment, vous vous dites, vous envisagez de devenir un écrivain anglais, anglophone. Vous envisagez très sérieusement, et vous le faites même, d'écrire en italien, de devenir un écrivain en italien. Et... Bon, finalement, c'est une espèce de concours de circonstances qui fait que vous devenez un écrivain francophone.
Oui, mais il faut dire, je déteste les clichés, comme j'ai dit autour de l'Haïti, autour de Cuba aussi. Les clichés, c'est que les Cubains aiment la musique et sont très musiciens. Mais en effet, c'est vrai. J'ai une oreille musicale.
Cubain, oui.
J'ai une oreille musicale, donc les langues, j'aime beaucoup. J'ai appris le russe, j'ai appris d'autres langues, mais
le russe, l'italien, l'anglais, l'espagnol, ça fait le français.
Mais définitivement, c'est la langue française qui est vraiment, je la considère ma langue d'amour. Pour commencer, j'ai écrit tout de même une vingtaine de pièces en français. J'ai écrit 13 romans, je crois, en français, c'est pour quelque chose. Non, et puis parlons de francophonie parce que, en effet, je suis très fier de représenter la francophonie à l'extérieur, sauf quand nous étions ensemble en Israël, Andrei Makin et moi-même, nous avions à Jérusalem une rencontre comme celle-ci, et c'était sous le nom de la francophonie, et Andrei se met dans toutes ses fureurs. Je ne suis pas francophone, je suis un auteur français. un auteur français, et un français, c'est celui qui écrit en français. J'écris en français, je suis français. Et après, il m'engueule. Tu ne dois pas accepter de contre-traiter des francophones, tu es français. Et je pense qu'il a raison. On appartient à la langue dans laquelle on s'exprime, l'écrivain. Oui. Si je m'exprime en français tout le temps, si je rêve en français, excusez-moi, mesdames, messieurs, si je fais l'amour en français, comme j'ai dit dans un de mes livres aussi, c'est que quelque part, je suis un français, mais on n'oublie pas ses origines, mes origines cubaines, mes origines de ma maman juive, mon papa. C'est aussi un mélange de beaucoup de choses. Mais je répète souvent que si le peuple cubain est tellement sympathique, c'est parce qu'il est très mélangé. Il y a eu la population blanche, la population noire, la population chinoise, beaucoup de Chinois, beaucoup d'Haïtiens, beaucoup de... Et ça a donné un mélange. Je crois au mélange. Donc, je suis contre la théorie de Hitler, évidemment, de la pureté de la race. Et je crois que les mélanges, même les cocktails, il y a des cocktails fabuleux, dont le daiquiri et le mojito cubain. Je crois à ça. Je crois à ces mélanges nourris. Toutes ces langues me nourrissent. C'est comme... J'étais à Cognac, rencontré, parce qu'on s'est rencontré à Cognac, on s'est rencontré un peu partout.
Oui, oui,
on se poursuit comme ça les uns les autres. Pardon, j'étais devant des élèves, 250 élèves, il y a un jeune qui m'a présenté, il a commis l'erreur, le pauvre, de dire « Vous êtes un touche-à-tout parce que c'est quelque chose qu'il a entendu dire. Oui. » Et je me souviens de la fureur...
C'est tentant,
de,
c'est tentant en même temps.
La fureur de mon autre camarade, frère, qui est à Mesquiche, Daniel, acteur, qui est un jour ensemble dans une réunion, enfin une émission, et on l'a dit, là, vous êtes un touche-à-tout fureur. Je ne suis pas un touche-à-tout, je suis un professionnel qui a plusieurs métiers qui vont ensemble. Professeur, je peux... acteur, je suis professeur, je suis metteur en scène, il dirige le conservatoire en ce moment, et tout cela, il est, et en plus, les acteurs, ils sont des acteurs de la radio, de la télévision, des cinémas, des théâtres. Et tout cela, il le fait avec beaucoup, avec un véritable professionnel. C'est la même chose pour moi. C'est-à-dire que j'étais danseur, j'étais chanteur, je danse encore, je chante encore, etc. Et, mais tout cela d'une manière très professionnelle pour nourrir, je crois, l'écriture. Parce qu'au fond, voilà, c'est l'écriture qui a toujours été ma passion. Je peux me priver de tout, mais pas d'écrire.
Alors justement, vous n'êtes pas un touche-à-tout, je ne ferai pas l'erreur de vous présenter ainsi, mais vous avez une expérience que n'ont pas beaucoup d'écrivains, et en particulier une expérience, je dirais, physique de l'approche de l'écriture. L'expérience du théâtre, qui est une expérience, vous avez fait des, véritablement des... vous avez été danseur, vous avez été... Il y a quelque chose... Est-ce que ça a nourri votre écriture de romancier?
Moi, j'y pense, sérieusement. C'est-à-dire que moi, j'étais la compagnie de Lecoq avec Avron, Évrard, Pierre Richard. Et je me suis entraîné toujours, tout le temps. Parce que j'en ai besoin. Ce n'est pas pour garder la forme, ni pour. Non. Si je ne m'entraîne pas tous les jours dans une série de mouvements physiques qui viennent du yoga, des arts martiaux, des saisies, que ce sont des souplesses. C'est des souplesses, simplement. Notre maître Lecoq nous disait le premier signe de qu'on vieillit, c'est les articulations qui deviennent raides. Il y a des personnes qui, malheureusement, ont des rhumatismes, des maladies, et là, c'est terrible, mais même ces personnes peuvent améliorer en faisant de la souplesse. Je fais de la souplesse tous les jours. Quand je regarde la télé, je regarde un DVD à la télé, je fais des poids haltères pour les plaisirs, et c'est ça que j'essaye... Pardon, je parle trop vite. C'est ça que j'essaye de transmettre.
Vous êtes le seul téléspectateur que je connaisse à faire des poids et haltères devant sa télévision, ça c'est...
Peut-être,
oui, oui,
mais c'est vrai.
Bien. Oui, oui, non, mais
je vous jure.
Oui, oui. Non, mais en plus, Eduardo a mis au point une méthode de... Oh, est-ce qu'on peut dire de gymnastique ou de mouvement
non,
qui permet de rester en forme?
Très
alors,
cher.
Alors, allez, dites-nous quand même, parce que ça nous intéresse tous, là, on ne sait jamais, ça peut servir.
Ça s'appelle expression corporelle.
Oui.
Et c'est Jacques Lecoq.
Ça permet d'être en forme
les
jusqu'à 100
maîtres.
Ans.
C'est-à-dire que c'est un travail de souplesse et d'articulation. Je suis passé récemment pour un autre livre que j'ai publié qui s'appelle « Comment avoir du panache à tout âge » et qui n'est pas là. Bah, c'était une librairie très intellectuelle et très sérieuse. Donc Panache n'est pas là. Tant pis.
C'est dommage, mais vous pouvez nous en dire deux mots, parce que ça nous intéresse aussi.
À 10h du matin, le dimanche dernier, j'étais à Cognac, j'avais dit que j'allais présenter une démonstration, parce que Panache, c'est mes expériences. Et je donne pas des conseils, mais je dis que les menus qui sont utiles, etc., etc. Et donc, je montre à travers des dessins d'incansènes d'exercices debout, assis et couchés. Et donc, j'ai dit, je vais donner une démonstration. C'était plein de dames, trois messieurs, parce que les hommes un peu partout ont démissionné depuis longtemps. Et donc, des dames de tous les âges. Et il avait une amie qui venait de Bergerac, une amie fidèle, qui est venue pour présenter. Je ne voulais pas faire un show, moi. Elle est venue pour présenter, mais je dis, s'il y a d'autres personnes, une dame formidable, 2 mètres grosse, elle s'aimait, une dame qui avait un problème articulaire, mais elle s'aimait, et une autre, mon amie, et puis une sylphide, une fille délicieuse, d'une beauté, des yeux immenses, et je commence, et je dis, mais vous êtes danseuse, elle est ukrainienne et danseuse du ballet, Marina, et donc elle est magnifique, et j'ai fait cette démonstration. Mais quand j'ai fait la démonstration, parce que j'ai fait la démonstration de personnes assises pour mes camarades journalistes, camarades écrivains, que j'ai mal au dos, Eduardo. Tu as mal au dos, sachant qu'il n'a pas ni rhumatisme ni quoi, parce que tu t'assois mal, parce que tu ne fais pas la moindre chose. Donc, je donne une série de mouvements, et puis toute la salle, toutes les dames étaient en train de le faire. Et ça, c'est très émouvant. Donc, la semaine prochaine, si Dieu le veut, je serai à Cap-Martin, à Roquebrune, et je fais encore ma démonstration. Je deviendrai le seul écrivain qui fait des démonstrations physiques dans les salons du livre.
Oui, c'est dommage de ne pas en faire une ici. Je peux vous dire que depuis son passage à Cognac, c'était quoi, la semaine dernière, il y a 10 jours, enfin il y a très peu de temps, tout Cognac fait des mouvements comme ça à la Eduardo Manet. Alors on va voir l'effet que ça a sur la population de Cognac, mais en tout cas...
Je vous dis, je reçois des mails de personnes qui me remercient, parce que c'est vrai, je vous jure que c'est utile, parce que c'est de souplesse, c'est simplement de retrouver, et puis je le fais dans les métros, on peut le faire discrètement ou non, je fais comme ça, les chevilles, très important, les jeux de chevilles, ça c'est un mouvement,
ouais.
Ça c'est un mouvement, c'est levé sans... Voilà. Donc, si vous m'invitez, je viendrai vous donner un cours la prochaine fois.
Mais il y a un livre qui est sorti, qui explique cette méthode, quand même.
Pour avoir du panache, qui n'est pas là.
Voilà, qui n'est pas là.
C'est publié chez Hugo. C'est très bien fait, le livre. Très beau. C'est très bien fait.
Voilà, c'est un aspect inattendu de l'œuvre d'Eduardo Manet, mais c'est très important, ça peut être très utile. Mais je vous posais la question tout à l'heure, Eduardo, quel rapport avec l'écriture romanesque? Est-ce que cette présence, est-ce que justement cette importance accordée à la présence physique, y compris dans le geste même d'écrire, se transparaît
au théâtre, pour moi, c'est indispensable. Si on lit mon théâtre, c'est un théâtre physique.
Mais je parle du roman, là.
Exactement. Les romans, en même temps, j'ai donné à la fin du livre, on m'a demandé de donner les 20 meilleurs films, selon moi, j'ai donné les 20 meilleurs enregistrements de jazz. Ils ont découvert que je suis un spécialiste à jazz. J'adore, parce qu'on me demande maintenant de venir dans les meilleures émissions de jazz, à TSF, au Duc de Lombard, et donc c'est pour parler de jazz, c'est pas parler de Cuba, de Fidel, de tout ça. Ras-le-bol, et maintenant j'ai fait les mouvements aussi. Mais je pense qu'effectivement, il y a quelque chose d'énergie. Et deuxièmement, j'ai beaucoup d'amitié pour Françoise Malé-Joris, qu'on s'est rencontrés souvent sans se mettre d'accord. On s'est rencontrés dans une grande piscine olympique qu'il y a du côté des. Comment ça s'appelle, tout près de Saint-Germain-des-Prés, et elle, comme moi-même, elle disait que le fait de nager l'aidait même au sens de l'écriture, que parfois, tout en nageant, elle pensait à des possibilités. Et ça, c'est formidable. C'est formidable. On avait dit ça à notre ami Françoise Verny, qui buvait sec et qui est morte de ça. Vous êtes tous les deux fous d'aller à la piscine. Il faut pas. Un écrivain ne doit pas dépenser son physique, disait Françoise Verny. Et non, je crois beaucoup, je crois. Et il y a pas mal d'écrivains, surtout latino-américains et surtout américains, qui exercent beaucoup de sortes, par exemple, le cheval. Il y a quelqu'un qui fait du cheval tout le temps, que ça l'aide à l'écriture, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, je crois que oui. Je crois que, d'une certaine manière, dans le rythme de mes romans, l'énergie que je crois qu'il y a dans mes romans, je pense, je crois, peut-être je me trompe, mais ça vient du fait que je m'entraîne tout le temps.
Voilà, vous l'aurez compris, Eduardo Manet n'est pas un touche-à-tout, mais il est spécialiste de beaucoup de choses, du jazz, de la gymnastique, de la natation.
Les seuls conseils que j'ai donnés aux jeunes, chaque fois que je rencontre les jeunes des lycéens, les seuls conseils, parce que c'est les conseils que j'ai suivis et que mes camarades cubains aussi, avant la révolution et après, être curieux. Avoir de la curiosité, écouter. Quand un intellectuel me dit « je n'écoute pas la télé, je ferme, mais tu te fermes au monde », moi je regarde tout, je l'ai dit à vos adolescents, parce que je suis très ouvert, je sais qu'on peut apprendre des choses un peu partout. Je regarde le film « Twilight » des adolescents, parce que...
En faisant des poids et haltères quand même, en même temps.
Non, quand je les regarde en DVD, sinon c'est au cinéma, mais je fais toujours des mouvements, surtout que quand on voit les vampires, sait-on jamais. Donc je sais pour qu'ils ne me piquent pas, les vampires. Mais c'est d'avoir la curiosité, d'être curieux, d'aimer. Comme disait Truffaut, mon ami, dont je parle, j'ai eu la chance de rencontrer François très jeune, qui aime la vie, aime le cinéma. Mais qui aime la vie, aime la musique, le jazz, qui aime la vie, aime beaucoup de choses. Et je crois profondément à cela.
Vous aimez la vie, manifestement. Donc, si vous avez des questions que vous voulez poser à Eduardo Manet sur quelque sujet que ce soit, puisque il aura, de toute façon, il aura la réponse, n'hésitez pas, c'est le moment. Alors, est-ce que vous voulez des compléments sur, je ne sais pas, sur comment avoir du panache à 100 ans, comment faire des longueurs de bassin, les meilleurs disques de jazz pour votre discothèque, en fait, tout ce que vous voulez.
Pour vous faciliter, j'avais fait un spectacle, c'est de là qu'est venu Panache. J'avais fait un spectacle en 2008 avec une amie argentine qui m'a dit, tu vas parler de Cuba comme tu parles dans mes années Cuba, mais avec un grand pianiste et compositeur argentin, avec la plus belle, la plus jeune, la meilleure danseuse, chanteuse de Buenos Aires. J'ai dit oui tout de suite. Et donc, il y avait les pianistes, il y avait la chanteuse et moi. Et à la fin, on chantait, on dansait ensemble. Beaucoup de personnes sont venues pour me dire « Ah, comment est-ce que vous gardez la forme ?» Écrivez, c'est l'écriture. Mais je disais dans ce spectacle la vérité. Chaque fois que je vais signer des livres dans les salons, un peu partout, il y a trois sortes de personnes qui s'approchent. Ceux qui viennent de Cuba, ceux qui vont aller à Cuba et ceux qui rêvent d'aller à Cuba. Alors, ceux qui viennent, je suis comme un vampire. Je leur dis, vous avez été quand? Vous avez vu quand? Je leur dis, ok, comme un vampire, grâce à ça, je peux écrire des livres. Et après, il y a des personnes qui me disent, mais c'est incroyable. Excusez-moi, c'est pas en modestie, c'est réalité. J'étais avec un ami hier dans un restaurant. Tout d'un coup, il y a un monsieur qui me dit « Vous êtes Eduardo Manet, je vous ai lu, j'étais à Cuba, c'est formidable. Et vous, ce que vous écrivez d'écrivain, on dirait que vous avez vécu là encore maintenant. » Mais non, mais parce que je me nourris. Je lui dis « Quand est-ce que vous étiez à Cuba? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez parlé ?» etc. C'est formidable. Mais sinon, on me demande, il y a des personnes qui m'ont demandé parfois les meilleurs... hôtel, si on peut louer, et je donne des renseignements. Et c'est pour cela que mon spectacle s'appelait « Comment je suis devenu une agence de tourisme cubain sans le vouloir ?» Donc, si vous me demandez maintenant des hôtels, la vie à Cuba, la seule chose que je ne peux pas vous donner, c'est pour les messieurs, surtout des numéros avec des dames qui peuvent vous... vous servir de guide à Cuba. Bon, mais sinon, pour le reste, non, si vous voulez, non, non, sincèrement, vous pouvez tout, tout demander.
Alors, profitez-en, c'est vraiment le moment. Donc, qu'est-ce que vous voulez savoir sur Cuba ou sur...
Il y a des personnes qui ont été à Cuba, parmi vous. C'est rare, c'est bizarre.
Personne, ah oui.
C'est bizarre. Allez à Cuba parce que c'est un moment de transition, parce que c'est un peuple magnifique, vraiment. C'est un pays formidable. Vous allez là, il y a mon ami Denis Labeille avec qui il déjeunait. C'est un écrivain et un médecin. Il a été à Cuba. Il est venu amoureux, je ne sais pas si c'est une cubaine, à mon avis, oui. Mais il m'a parlé très bien, véritablement, de cette situation qui vivent les peuples cubains et qu'en même temps, c'est terrible, mais en même temps, c'est formidable. C'est un peuple formidable qui mérite vraiment le bonheur, la tranquillité,
et
la
vous,
paix.
Et vous pensez, Eduardo, que c'est un moment particulièrement opportun maintenant, précisément, pour aller à Cuba?
Pour vous, oui. Moi, je ne peux pas.
Il
me faut un visa pour commencer. Quoique, il y a un journaliste qui m'a dit qui a fait une interview à Raúl Castro et qu'étrangement, il a dit, il a posé des questions sur moi. Je ne sais pas dans quel sens. Bon, sait-on jamais.
Mais vous avez été très proche de Raúl Castro, il pourrait vous
oui,
être...
Oui, oui, non, mais bon...
Surtout de Raúl, plus que de Fidel, mais en tout cas dans
lui,
dans
lui
Cuba,
il est très,
à Paris.
Il est très fidèle à Fidel.
Oui, d'accord, mais enfin... Oui.
Je combats. Et là, ils sont inutilement, il y a 60 personnes en prison, condamnées à 28 ou 30, et 6 journalistes indépendants. Donc, c'est ça qui est terrible. Il n'a pas pourquoi avoir ça, mais bon, c'est comme ça. C'est fidèle. Hein. Ouais. Je suis certain que Raúl Castro, qui est bien plus intelligent qu'on le croit, qui a le sens de l'humour que Fidel n'a pas, et qui a fait quelques pas. Par exemple, les Cubains ne pouvaient pas aller dans les hôtels. Interdit. Vous alliez vous inviter un Cubain. Interdit. À Varadero, interdit maintenant, et il a levé cet embargo-là, Raoul. Et maintenant, on peut inviter un Cubain, une Cubaine, simplement, à un hôtel, à un restaurant. Avant, on ne pouvait pas. Donc, des petites améliorations, mais...
Mais ce que vous dites, d'ailleurs, dans un Cubain à Paris, qui est un petit peu surprenant, c'est que Raúl Castro a eu une influence de longue date, en fait, sur le régime cubain. On a l'impression qu'il était complètement dans l'ombre, que c'était évidemment Fidel Castro qui était aux commandes, mais que Raúl Castro n'avait à peu près aucun rôle. Or, ce n'est pas tout à fait le cas.
Le Raúl que j'ai connu, il était comme ça. Un chinito, j'ai une photo avec lui de cette époque, avec des petites moustaches, qui adorait le cinéma. On allait ensemble, Thomas Gutiérrez Alea, qui après a fait Fraise et Chocolat, que vous l'avez vu, Nestor Almendro, qui a fait la photo, qui plus tard gagnerait le prix de photo à Hollywood, avec Sophie Scholz, Les Choix de Sophie, et un autre film. Gabriel Infante, un très très grand écrivain cubain qui est mort malheureusement récemment. On allait tout le temps au cinéma, on allait voir et on allait voir aussi chaque fois que les grands frères avaient un discours, Fidel, on allait avec lui. Il écrivait des poèmes, il était donc. Mais à mon retour, après la révolution, je trouve un militaire, complètement un changement profond. Et comme il est petit, comme on avait dit qu'il était homosexuel quand il était jeune, mais tout ça parce qu'il était très fin et très bon. Ça, c'est les histoires de machisme cubain. Il fait la voix comme ça. Les Cubains le détestent. Les Cubains trouvent qu'il n'est pas sympathique. C'est un crime à Cuba de ne pas être sympathique. Mais, au fond, il est sympathique dans la vie privée. Mais c'est un militaire. Il est devenu celui qui a fait l'armée cubaine, tout de même, qui a lutté en Angola et qui a lutté contre les armées de l'Afrique du Sud, des armées très fortes. Donc, c'est lui qui dirige tout avec 5 généraux. Les transports, le tourisme, évidemment, le ministère de l'Intérieur, tout cela est dirigé par 5 généraux. Un marié avec la fille de Raoul, c'est-à-dire que c'est lui qui a tous les pouvoirs, un pouvoir absolu, mais qu'à mon avis, il pourrait exercer d'une manière un petit peu plus subtile que son grand frère qui est toujours là. Et que, voilà.
Vous vouliez poser une question, monsieur.
Puisqu'on parle politique, je voudrais embrayer un peu, mais où est-ce que vous révolution cubaine, parce que quand même, au départ, elle a suscité un enthousiasme terrible, elle a réduit l'analphabétisme de manière considérable, ce que fait aucun autre pays du Sud, etc. Et puis, à un moment donné, est-ce que c'est la paranoïa du pouvoir? Est-ce que c'est les soviétiques? Il y a un basculement, il est insensible, et puis, mais rapide.
C'est très rapide parce que tout dépendait de Fidel Castro. Fidel Castro, je dis toujours, il n'est pas cubain, véritablement. Il ne danse pas, la musique, il n'aime pas, il n'est que le sport, ok. Il est galicien, comme Franco, de Galice, Franco, le général Franco. Donc, il est comme ça. Et en réalité, une partie de tout le développement si rapide de la tombée de Cuba, c'est dit aux Américains, c'est dit au général Eisenhower et à Nixon, qui avait préparé. Et quand Kennedy allait être élu, mais on ne le savait pas, déjà Nixon avait préparé l'invasion de Cuba. Et quand Kennedy a été élu, il a trouvé ça. Il ne pouvait pas dire non. Mais il a fait quelque chose, et tout de même. C'est-à-dire que dans l'idée, dans l'objectif de Eisenhower et de Nixon, Richard Nixon, c'était invasion, et trois Cubains mettaient les pieds dans la plage, et tout de suite, c'était considéré comme le gouvernement. Et l'armée américaine arrivait. Mais qu'est-ce que fait Kennedy? Quand les autres arrivent, mais en trois jours, ils sont complètement vaincus par les Cubains, les fidèles, Kennedy n'a pas envoyé l'armée. Et c'est grâce à ça uniquement, que le gouvernement cubain a pu résister. Et quelque part, il y avait une sorte de sympathie pour de Castro, pour Kennedy, et parce que grâce à Kennedy, il n'avait pas veri. Il essaie, peut-être il le dira dans les mémoires qu'il écrit à ce moment. Grâce à Kennedy, il n'a pas eu la véritable invasion américaine. Ah, et à partir de ce moment-là, après, il a eu la crise de Khrushchev et les missiles, donc là. Et peu à peu, c'est avec l'embargo américain, peu à peu, l'Union soviétique donnait, et les pays de l'Est donnaient tout à Cuba, tout. Les couches pour les enfants, les allumettes, tout venait de là. Donc, peu à peu, en plus de cela, on croyait que l'Union soviétique et le communisme allaient durer partout. Nicaragua était devenu communiste, à un moment donné, Allende avait triomphé, après on l'a, mais on croyait vraiment, vraiment que le communisme allait durer 1000 ans. Et l'Union soviétique implose. Et c'est là où il a eu une période très difficile, la période spéciale. Mais quelque part, les peuples cubains, surtout les paysans qui ont beaucoup, continuent à soutenir les gouvernements cubains, quelque part. Ce qu'ils ont perdu, les gouvernements cubains, ce qu'il a perdu, c'est la jeunesse. Le jeune cubain ne rêve qu'à s'en aller, pas pour politique, pour vivre comme vivre le jeune un peu partout. Mais vraiment, vraiment, ça, c'est un échec total de ce point de vue, parce qu'il ne rêve que s'en aller, qu'à vaincre. Mais ça, c'est venu surtout à du moment, pour vous répondre, à partir de 1965, que Fidel Castro a créé un parti communiste comme celui de l'Union soviétique, c'est là que j'ai commencé à dire que je devais peut-être un jour retourner en France. Et ça a été grâce aux circonstances. J'avais une pièce qui allait être jouée à Paris et j'ai pu demander une permission de sortie en 1968, quand les chars russes sont entrés à Prague. J'ai su que c'était, et que Fidel Castro avait approuvé ça. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a un raidissement total du gouvernement, et qui dure jusqu'à présent avec des hauts et des bas. Mais bon.
Avez-vous d'autres remarques, d'autres questions? Non? Rien de particulier. Eh bien, écoutez, Eduardo, merci à vous. Bravo.